Visiteuse nous a remarqué que le thème comment sortir de l'échec était peut-être tout à fait approprié parce que j'ai l'impression qu'il y a des petites difficultés d'organisation. En ce qui me concerne, donc effectivement, je suis psychanalyste. Je n'ai pas du tout la prétention de faire une conférence parce que ce n'est pas du tout ma vocation. Et j'ai le désir de partager avec vous, si vous le voulez bien, plutôt une expérience. J'ai été moi-même en névrose d'échec longtemps. J'ai fait une analyse, je suis devenue didacticienne analytique et c'est vrai que j'ai le souci, au travers aussi de la revue, de désacraliser une science qui, fort heureusement d'ailleurs, s'ouvre de plus en plus et qui est de moins en moins abordée comme quelque chose de très intellectuel. Alors, on m'a dit qu'il n'y avait pas de micro-baladeur. Moi, je serais plutôt partisane de vous donner la parole lorsque vous le désirez. Il y a très peu de temps, en fait, pour intervenir. C'est vrai que moi, j'avais prévu des axes très complets. Mais donc, on va essayer de faire les choses de façon plutôt sympathique. Alors, j'ai fait un dessin extrêmement sommaire. Je vais le compléter, je vais l'animer très rapidement de façon à ce que vous arriviez à peu près à situer ce qu'est la psychanalyse. La psychanalyse traite de l'inconscient. Nous avons un conscient. On peut prendre pour exemple un individu qui désirait arrêter de fumer. Il voit son médecin, c'est un patient tout à fait sérieux. Le médecin lui explique qu'il est obligatoire qu'il arrête de fumer. Bien qu'il y ait un désir conscient, eh bien, ce patient ne va pas pouvoir arrêter de fumer. Alors dans l'entourage, on pourra dire qu'il manque de volonté. En fait, il se passe des choses tout à fait différentes puisqu'il y a une vie inconsciente. Vous savez que le maître de la psychanalyse est Freud. Donc Freud s'est rendu compte qu'il y avait une organisation psychique un petit peu compliquée. Donc inconscient, effectivement, je veux arrêter de fumer, des leviers de commande inconscients et je vais essayer de vous expliquer donc sommairement comment les choses se passent. Alors, les premiers travaux de Freud sur l'appareil psychique remontent à 1900, donc où il avait relativement simplifié l'organisation de la psyché. Donc, le conscient, qui quelque part peut être apparenté à nos conduites dites d'échec, ce n'est pas fatalement péjoratif d'ailleurs, puisque c'est aussi lié à une maturité ou à une immaturité pulsionnelle, l'inconscient, donc, où se trouvent les leviers de commande. Encore une fois, si je n'arrive pas à trouver de travail ou si je n'arrive pas à faire de régime, eh bien, il y a une vie qui est très indépendante du conscient. Pourquoi ? Parce que il y a une espèce de barrage entre l'inconscient et le conscient, donc appelé préconscient, qui intervient également quand, par exemple, on essaie de se souvenir du nom d'une cousine, ou du prénom d'une cousine. On discute et puis tiens, ça disparaît. Bien effectivement, ce barrage va provoquer donc ce qu'on appelle un refoulement. Hein, c'est-à-dire qu'alors que les mots pourraient venir, eh bien, ils se resituent au niveau inconscient. L'inconscient est un petit peu assimilé à l'inavouable. On verra pourquoi tout à l'heure. Donc, si j'ai des difficultés en fait à obtenir ce que je désire au conscient, vous savez que les leviers de commande se situent ici. Freud s'est rendu compte qu'il était insuffisant d'aborder les choses de façon aussi simpliste, donc il a redivisé cet appareil psychique. Donc là, on parle de première topique 1920, ses travaux sur la deuxième topique ont été élaborés sur une vingtaine d'années, donc on les situe en 1920. Il y a donc ce que l'on appelle en psychanalyse deux instances, le ça et le surmoi. Le ça est un principe de plaisir débridé qui ne connaît pas les limites. Et il va se heurter à un censeur, à un juge, à un arbitre, le surmoi. Il y a une lutte qui est perpétuelle. Lorsque nous sommes malades, même s'il s'agit d'une simple grippe, il faut savoir qu'entre le ça et le surmoi, il y a dispute. C'est-à-dire que le ça, donc encore une fois, qui est vraiment une instance de plaisir, va se heurter à une espèce de raison très rigide. Et donc, c'est ce qui va provoquer ce qu'on va appeler les somatisations. Alors, la psychanalyse, effectivement, est un travail qui est un travail en profondeur, puisque, alors que les psychothérapies traitent du conscient, avec un engagement plutôt directif du thérapeute, la psychanalyse traite de l'inconscient. Cette vie, donc, qui est cachée, est rendue accessible par le langage, puisque la psychanalyse est donc une analyse du langage. Effectivement, lorsque nous parlons, nous émettons des sons que l'on peut appeler phonèmes. Eh bien, c'est cette écoute des phonèmes qui, en fait, va nous dire ce qui bloque, tout simplement. Alors, effectivement, c'est un apprentissage qui est spécifique. Malheureusement, c'est pas du tout ce qui est véhiculé en règle générale. Un psychanalyste est quelqu'un qui fait des études. Vous avez deux sortes de professionnels en psychanalyse. Vous avez le psychanalyste qui est de formation médicale, donc qui est médecin, mais qui doit faire des études qui ne se font pas en règle générale sur les bancs de la fac, puisqu'en fait nous sommes obligés d'étudier le transfert. Et puis vous avez les psychanalystes de formation philosophique et linguistique que Freud préférait. Curieusement, alors qu'il était médecin, il trouvait, et c'est toujours d'ailleurs le cas actuellement, qu'un psychanalyste de formation linguistique s'attaque beaucoup moins aux symptômes, puisque le symptôme va en fait être une base de travail pour le thérapeute. Alors, je crois que j'ai un plan qui avait été annoncé. Merci. Voilà, alors, comment écouter l'inconscient ? Lorsque on va chez un analyste, bon, là aussi, c'est très caricatural, les gens comme ça ont des clichés enregistrés, on s'allonge sur un divan et puis on parle. Alors, c'est pas exactement ça, il y a deux possibilités d'aborder l'analyse. Effectivement, on peut tout à fait faire un travail allongé, mais surtout, le psychanalyste est payé donc pour écouter donc ce qui se passe dans cette vie inconsciente. Donc, ça peut tout à fait être en face à face. À l'inverse d'un thérapeute qui, lui, va rester donc sur ce qu'on va appeler le langage, c'est-à-dire sur un discours qui est tout à fait conscient. Donc, le psychothérapeute va renvoyer quelque part cet échange en donnant même son avis, eh bien effectivement, donc ce qu'on va appeler les explicites, eh bien par contre, un analyste, lui, va travailler sur l'inconscient, donc sur les phonèmes, et va renvoyer le transfert en rebondissant donc sur des expressions qui sont souvent ambivalentes. Si nous prenons par exemple dans une phrase le terme foi, F-O-I-S, eh bien il y a plusieurs écritures différentes. Donc on va appeler contre-transfert la récupération par l'analyste de cette ambivalence, et l'analyste, sans que le patient s'en rende compte, va donc permettre de discuter avec l'inconscient au niveau donc du désir. Est-ce que vous avez des questions à poser à ce niveau-là ? Parce que sinon, on sera gêné pour la suite, oui.
Vous placez le subconscient.
Alors, le subconscient est une expression qui est de moins en moins utilisée, qui a été utilisée au départ de la psychanalyse et qui correspond effectivement à l'inconscient. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une expression qui disparaît. On n'a pas d'ailleurs d'explication rationnelle, peut-être. L'explication qu'on pourra en donner, c'est que l'analyse gomme le rapport dominant-dominé. Peut-être que dans la notion de sub, il y a une notion de supériorité, alors qu'en fait, c'est pas du tout le sens de l'analyse, justement. Mais je ne sais pas s'il y a d'explication réelle aujourd'hui. Y a-t-il d'autres questions pour que nous allions plus loin ?
Je n'ai pas bien compris tout à fait à la fin ce que vous avez dit, l'histoire du contre-transfert. La psychanalyse rebondit sur les expressions ambivalentes.
Oui, oui, c'est pour ça que je posais la question, pour savoir si ça avait été saisi. Oui, supposons qu'un patient vous dise, voilà, actuellement, j'ai plusieurs fois mal à la tête dans le mois. Donc, si nous isolons comme ambivalence le terme foi, hein, je reprends l'exemple de tout à l'heure, un psychothérapeute va peut-être demander au patient le nombre. Alors que nous, pas du tout. Nous allons entendre l'ambivalence, foi, F-O-I, qui peut être aussi, par exemple, la ville de foi ou foi, F-O-I-E. Alors, c'est vrai, vous permettez de dire que pour être analyste, il faut donc avoir fait un travail sur soi, ce qui va nous amener à ce qu'on appelle la neutralité bienveillante et qui est en fait l'empathie, c'est-à-dire ni sympathie ni antipathie pour son patient. Donc effectivement, c'est aussi l'ensemble du travail analytique et l'approche que l'on a de son patient au travers d'une connaissance qui va faire qu'on va donc contre-transférer. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus en fait de langage, mais donc de discours. C'est-à-dire que c'est une communication d'inconscient à inconscient avec l'analyste. Il faut savoir à ce sujet que de toute façon, on ne consulte pas un analyste par hasard, même si c'est surprenant. Dans les grandes lignes, le patient qui consulte un analyste a quelque part la même histoire, la même sensibilité que l'analyste. Je ne sais pas si ça répond à votre demande. D'accord. Y a-t-il d'autres questions à ce niveau-là ? Alors, c'est ni antipathie, ni sympathie. C'est-à-dire que l'analyse va faire que nous allons arrêter ce que nous appelons des projections. C'est-à-dire, justement, un côté un petit peu partisan. Supposons qu'un analyste soit divorcé. Il reçoit un patient qui connaît des galères actuelles parce qu'il divorce. L'analyste, de par sa formation, ne va pas faire d'effort, mais va complètement oublier son histoire et son propre divorce. Donc, c'est ce que Freud appelait la neutralité bienveillante, en fait. Y a-t-il d'autres questions ? Alors, pour un petit peu avancer et pour rentrer plus particulièrement dans les conduites d'échec, il faut savoir que un inconscient, en gros, s'est élaboré entre 0 et 6 ans. Lorsque l'enfant est dans le ventre de la mère, donc pendant la période intra-utérine, il vit un état de toute puissance, c'est-à-dire qu'il n'a pas conscience de l'extériorité. Il se vit aussi bien la paroi utérine que lui-même, que le cordon, et il va s'en suivre une espèce de déception avec la naissance. Donc c'est un traumatisme qui a été appelé par Otto Rank l'angoisse de dissociation, et l'inconscient va fantasmer que lors de la naissance, il perd une partie de lui-même. Donc il va y avoir une espèce de quête dans l'existence qui va consister à chercher à retrouver un petit peu cette partie perdue. Cette partie perdue est d'ailleurs curieusement identifiée à ce qu'on pourrait appeler la mère, mais la mère n'est pas perçue comme un sujet à ce moment-là, mais est perçue comme un objet. Il est certain que cette espèce de désillusion que l'être humain connaît va entraîner malgré tout continuellement dans l'existence, le désir donc de retrouver cet état privilégié. Donc c'est ce qui va entraîner aussi la mise en place des fantasmes. Il faut savoir par ailleurs que l'enfant découvre d'abord sa mère puis son père, mais on s'en doute, entre 0 et 6 ans, la maturité pulsionnelle est complètement insuffisante. Alors il est bien évident que si la mère est hôtesse de l'air, l'enfant ne va pas fantasmer qu'elle est institutrice, mais par exemple, une mère qui travaille beaucoup peut être abordée par l'inconscient de l'enfant comme une mère n'aimant pas son enfant, comme une mère injuste, comme une mère incompétente, etc. Donc l'enfant s'identifiant à la mère va s'identifier aussi bien en positif qu'en négatif, mais il va y avoir de ce fait une espèce de culpabilité qui va se mettre en place, puisque étant donné que le surmoi est quand même là, qui veille, donc ce juge, ce censeur et cet arbitre, va être là un petit peu pour rappeler à l'ordre donc cet inconscient qui pourrait partir à la dérive. L'inconscient, après les 18 premiers mois de la vie, donc toute cette période où il s'est identifié à la mère, va donc découvrir le père. Il va faire exactement la même chose, et là donc il va y avoir une culpabilité qui va se surajouter. Donc, c'est un petit peu ce qui va finalement fabriquer de l'échec. C'est-à-dire que l'enfant, culpabilité aidant, va finalement avoir peur de perdre l'amour des parents. Parce que pour lui, c'est logique, il y a une espèce d'effet boomerang. J'ai mal abordé ma mère, j'ai mal compris mon père, je les ai jugés. Donc, fatalement, je vais avoir une rétorsion. Cette rétorsion, donc, angoisse l'inconscient, c'est la mise en place de l'angoisse, au point que l'enfant va finir par se modéliser au désir des parents. Et c'est aussi ça qui va continuer à construire l'échec. Dans la vie, ça donne quoi? Outre le fait que souvent, sur un plan affectif, on connaît, on rencontre des galères, bien sûr, puisqu'on va essayer de retrouver malgré tout un petit peu le couple idéalisé des parents, même si les parents ne s'entendaient pas, eh bien, on peut être par exemple pépiniériste alors qu'on était fait pour être pâtissier. Étant donné qu'on n'est pas en accord avec soi-même, ce qu'on peut appeler quelque part une dyspraxie, eh bien, on peut par exemple avoir des accidents de travail. Hein, si on est fait pour être enseignant et que l'on est avocat, eh bien, on peut très bien avoir un accident de voiture, en fait, qui se met en place, par exemple, en allant travailler. Donc, vous voyez que les diplômes n'ont rien à voir, en fait. Donc, c'est aussi toute la différence entre ce qu'on va appeler la jouissance, c'est-à-dire lorsque l'on vit par procuration, et donc le désir qui rejoint l'inné. Jacques Lacan est arrivé donc quelques années plus tard et a repris un petit peu donc les instances freudiennes. Le ça, il l'a apparenté à l'inné, le surmoi au symbolique et le moi au réel. Je pense que tout le monde a entendu parler d'une personnalité névrosée. C'est pas non plus des choses qui sont dangereuses ou très péjorative. Une personnalité névrosée, c'est quelqu'un qui justement n'est pas à sa place dans la vie et vit par procuration. Donc, lorsqu'un névrosé vient en analyse, hein, c'est-à-dire que tout consultant qui vient en analyse, bien sûr, c'est une évidence, n'est pas en accord avec lui-même. Pourquoi ? C'est parce qu'il a privilégié un accord moi sur moi. C'est-à-dire que les parents, très vite, ces parents qui posent des limites à juste titre, vont être apparentés justement au censeur. Et encore une fois, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, de peur de perdre cet amour, eh bien, l'enfant va véritablement épouser donc les désirs des parents. Dans les grandes lignes, bien sûr, que pas sur la majeure partie de ses activités. Mais très souvent, il y a comme ça des dominantes qui reviennent. Alors là aussi, ça peut parfois être rassurant pour les parents. Bon, on peut avoir 3-4 générations de notaires, mais ce n'est pas fatalement une réussite sur un plan d'un équilibre. Et très souvent, ce sont les générations qui en découlent d'ailleurs, qui font les frais donc, de gens qui ne sont pas en accord avec eux-mêmes. Donc la psychanalyse, donc, qui est une méthode en fait, va faire reparcourir tout ce chemin donc, entre 0 et 6 ans, sans que le patient s'en rende compte, de façon à ce qu'il y ait un accord moi-ça. Donc, le « ça » donc étant l'inné, et donc il y a une rencontre avec son propre désir. Alors, bien sûr que tout l'héritage transgénérationnel est pris en compte. On a pu avoir des grands-parents fabuleux, on a pu avoir des grands-parents qui nous ont transmis des choses très intéressantes, ne serait-ce que culturellement, hein, ça va jusqu'au niveau des traditions. Donc, l'analyse va tout à fait respecter ce qu'on va appeler donc le symbolique, c'est-à-dire quelque part cet effet de masse qui a fait ses preuves, mais sans être complètement englué par cela. Par exemple, là, il y a l'approche des fêtes de Noël. Tous les ans, moi, je vois des patients qui sont complètement à l'envers parce qu'ils sont obligés d'aller passer les fêtes dans leur famille ou dans leur belle famille. Et on voit qu'ils en sont malades. Ils peuvent même aller jusqu'aux somatisations. Bien, c'est vrai que l'analyse apprend quelque part à dire non si on est en inadéquation, en fait, avec cette culture, avec ces traditions, dès l'instant où ça ampute, où ça empiète sur une liberté. Donc, c'est ce qu'on appelle, si vous voulez, les conduites faux self, lorsque l'on est en accord moi sur moi, et donc les conduites vrai self à la suite d'une analyse. Donc, l'accord moi ça. Alors, il faut savoir qu'une conduite vraie self n'est pas du tout quelque chose de dangereux. C'est ce qu'on va appeler aussi le principe de réalité, dans la mesure où il va y avoir un équilibre entre le plaisir et le besoin, entre le plaisir et le devoir. Il est certain aussi que même si une analyse, selon l'expression connue de Lacan, revient à s'autoriser de soi-même, une personne qui est en analyse va d'abord répondre à des obligations qui peuvent être familiales ou professionnelles, mais ira jusqu'à se faire plaisir. Le problème aussi du névrosé, c'est qu'il en a tellement marre finalement de vivre par procuration qu'il peut, par réaction, et on peut même dire par complexe, se lancer dans des plaisirs parfois débridés et mettre en difficulté et sa vie familiale et sa vie professionnelle. À ce stade, avez-vous des questions à poser ? Non ? Personne ? Parce que là, ce sont des choses un petit peu...
Je disais à la personne qui vient d'arriver qu'il y a des places là, si vous voulez.
Voilà, donc on va revenir dessus. Vivre par procuration, c'est très inconsciemment faire ce que l'on a fantasmé d'ailleurs, ce qui n'est pas fatalement une réalité, ce que les parents attendaient de nous. Alors qu'en fait, on a tous des chemins qui sont uniques. Alors par contre, effectivement, on peut être boulanger de père en fils. Si on est un boulanger heureux, il n'y a pas de problème. Alors comment voit-on que l'on n'est pas un boulanger heureux ? Effectivement, c'est au niveau des accidents de travail, au niveau d'une agressivité systématique, au niveau d'une recherche de conflits systématiques, etc. Bien sûr, toutes les somatisations sont témoins de quelque chose qui dysfonctionne. Alors, oui, là, c'est pas exactement ça, mais là, bon, si vous voulez, on peut l'aborder rapidement. Je pense que tout le monde a entendu parler du complexe d'Œdipe. Donc, effectivement, chaque enfant, ça peut être aussi des parents de substitution, donc malgré tout, c'est vrai que moi, j'ai démarré un petit peu par la haine, etc., mais vit une grande histoire d'amour avec sa mère ou avec son père. Seulement, c'est quand même l'inavouable. Vous savez que ça touche le tabou de l'inceste. Et vous pouvez avoir, par exemple, on le voit notamment pendant l'adolescence, des crises d'adolescence très marquées, qui en fait sont là pour masquer un amour interdit avec la mère, avec le père. Vous voyez, c'est-à-dire dans ce que vous dites, l'opposition n'est pas fatalement une opposition parce qu'on a fantasmé le père mauvais. Bon, c'est vrai aussi qu'il y a des pères qui sont réducteurs, qui sont castrateurs, comme des mères. Mais très souvent, et curieusement, c'est une attitude, si vous voulez, très haineuse qui, en fait, cache malgré tout une grande histoire d'amour, qui est un amour fantasmatique, ce sont des amours fantasmatiques, mais très souvent, c'est pour masquer, là aussi, ce qui est interdit, ce qui est inavouable.
Hein. Est-ce qu'on sait quel est l'impact sur l'enfant du rapport sexuel qui a été à l'origine de son arrivée, de sa fécondation ?
Alors, il n'y a pas d'impact en fait très négatif dans la mesure où ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. L'enfant est donc, on va dire, prépsychosé pendant la période intra-utérine, c'est-à-dire que comme il vit un état de toute puissance, il fantasme quelque part qu'il a permis la rencontre de ses parents. Les choses ne sont pas si mal faites que ça. Ça fait partie de ce qu'on appelle le processus de par-excitation, c'est-à-dire, outre effectivement les profils de mères, par exemple, qui sont des mères qui ont des conduites toxicomaniaques. Mais par exemple, un enfant qui naît dans une famille, qui s'incarne dans une famille même très perturbée, avec des parents angoissés ou des parents très immatures, etc., va bénéficier donc d'un processus psychophysiologique qui va amoindrir donc ce genre de traumatisme. Oh oui, ça serait bien. Moi, je trouve que ça serait bien, oui, tout à fait. Voilà. Non, mais je te laisse faire ce que tu veux.
Oui, merci. Bien que ce soit un cas particulier, je voulais savoir comment vous pourriez rapidement évoquer le cas de l'anorexie, par exemple, parce que c'est pas de la somatisation.
Alors, oui. Alors donc la question qui est posée, c'est essayer donc de simplifier, de donner une explication. La pathologie anorexique. Bon, c'est une pathologie de type oral. Et curieusement, il y a trois zones érogènes très marquées chez l'individu. Donc, il y a la zone buccale, il y a la zone anale et la zone génitale. Donc, chez l'anorexique, et encore une fois, paradoxalement, c'est une zone qui est particulièrement érotisée par l'inconscient. Mais elle est tellement érotisée qu'elle va être zone interdite, en fait. C'est-à-dire que c'est vrai que l'enfant est beaucoup plus préoccupé, enfin le tout petit d'homme, hein, dès les premières semaines, par la succion que par l'absorption. Si vous voulez, on peut aller un petit peu plus loin, mais c'est vrai qu'on va rentrer dans quelque chose de... Oui, ça vous intéresse. Bon. Alors, l'être humain... bien sûr, de par... Je ne sais pas si j'ai le droit de regarder. Voilà, c'est très très bien résumé. On va peut-être vous le faire mettre un petit peu... Non, je ne sais pas si tout le monde l'a vu, non ? On leur donnera, c'est superbe. Voilà. Oui, donc l'être humain est soumis à des pulsions, et notamment donc la pulsion de succion, ce qu'on va appeler une pulsion d'étayage. C'est déjà dès la naissance, le fait donc encore une fois de sucer le mamelon est déjà une pulsion dite psychosexuelle, c'est-à-dire l'enfant prend beaucoup de plaisir en fait à téter. Et très curieusement, il est encouragé par la mère, c'est-à-dire qu'il se rend très bien compte que maman est très contente s'il a bien tété, ou pas contente du tout s'il n'a pas bien tété. Peut-être un peu moins maintenant, parce que les mères sont beaucoup moins angoissées avec l'allaitement à la demande, mais ça reste très récent. Donc en fait, plus la mère va être investie positivement, plus cette zone érogène donc va être investie. Mais malgré tout, si la mère a une certaine rigidité, c'est un des cas de figure, hein, puisqu'il peut y en avoir beaucoup, hein, il faut aussi qu'il y ait beaucoup de concours de circonstances qui s'allient à tout cela, eh bien l'enfant va malgré tout donc recevoir une impression d'interdit par surmoi interposé, donc par censeur interposé. D'autre part, il faut savoir que très souvent l'anorexique a un complexe d'infériorité qui est très important. Et l'anorexique fantasme que la seule chose qu'elle peut véritablement contrôler dans la vie, c'est l'alimentation. Il peut y avoir aussi beaucoup de séduction, là on peut rejoindre l'Œdipe, mais il faut savoir qu'il faut qu'il y ait quand même des facteurs pluriels pour qu'il y ait la mise en place d'une anorexie donc très autodestructrice. Ça répond à peu près à ce que vous... Oui, oui, non mais... Oui, parce que c'est vrai que là, il faudrait rentrer. Oui. Oui. Mais donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est peut-être surtout ça qu'il faut retenir, c'est que l'anorexique aime manger, puisqu'elle a donc, ou il y en a moins, il y a moins d'hommes, mais elle a aimé beaucoup téter. Alors, il faut savoir aussi, donc on va conclure peut-être là-dessus, en ce qui concerne l'anorexie, il y a la mise en place de deux Œdipes, ça vous donnera peut-être une explication plus complète. Il y a un Œdipe dit positif, c'est-à-dire c'est la petite fille qui aime son père, le petit garçon qui aime sa mère, et l'Œdipe négatif qui est un Œdipe à éclairage un petit peu homosexuel, c'est-à-dire le petit garçon va aimer aussi son père et la petite fille va aimer sa mère. Donc pourquoi y a-t-il a priori plus d'anorexiques femmes? Tout simplement parce que l'inconscient est en but à un Œdipe négatif, c'est-à-dire l'amour de la petite fille pour sa mère, donc ce sein qui a été donc hyper investi. Et de fait, bien sûr, l'homosexualité est quelque chose qui demeure interdit pour un inconscient, même si actuellement il y a quand même une tolérance qui est plus grande, une revendication plus grande au niveau du statut d'homosexuel. Mais bien sûr, tout le monde le sait, l'homosexualité, quelque part, n'amenant pas de procréation possible, l'interdit est donc d'autant plus important, puisque là aussi, même religieusement, culturellement, etc., nous sommes a priori sur Terre pour procréer. Donc c'est ce qui explique aussi que l'interdit, donc, s'étayant sur un Œdipe négatif, est un interdit qui est quand même là, pour le coup, très massif, et donc cette zone est même dénié quelque part. Donc. C'est-à-dire que même si un enfant, par exemple, est un enfant abandonné, eh bien, il va élire donc, ce qu'on appelle en analyse, non pas donc, des sujets, mais des objets d'amour qui vont prendre la place des parents, qui se transformeront donc dans un second temps en objet de haine. Mais ça fonctionne de toute façon à ce niveau-là.
Par rapport à cette conférence, on n'a pas non plus défini la notion d'échec, parce qu'il faudrait quand même donner un aperçu. Justement.
Oui, alors, moi je l'ai implicité, si vous voulez, mais je pensais qu'il y aurait des questions plus directes. C'est-à-dire qu'effectivement, on va considérer qu'il y a échec du sujet, c'est un échec vis-à-vis de lui-même, dans la mesure où il va vivre justement par procuration, puisque ce sont des béquilles supplémentaires. Alors, comment sortir de l'échec? Eh bien, curieusement aussi, donc, je vous ai expliqué que l'enfant, donc d'abord découvrait son parent comme bon, hein, donc c'est On pourrait dire d'ailleurs de façon succincte le parent nourricier. Et puis ensuite, évidemment, les parents, et de façon très juste et très logique, vont s'opposer à ce désir débridé, à ce plaisir débridé, à ces revendications un petit peu intempestives de l'enfant. Donc le parent devient mauvais. Eh bien, je vais peut-être vous laisser regarder parce que moi j'ai cette curiosité. Donc effectivement, encore une fois, si on revient à cette notion de culpabilité, l'enfant va avoir l'angoisse donc de perdre l'amour des parents et il va donc essayer finalement ce qu'on va appeler ensuite plus tard l'hystérie de séduction. Il va essayer de séduire ses parents en répondant aux injections. Oh pardon, d'accord, l'absus est intéressant. Aux injonctions des parents. C'est pour ça, par exemple, même si on voit un enfant rien qui est scolarisé. Très souvent, les parents n'ont pas fatalement fait le sport qu'ils voulaient, donc ils essaient de démontrer à leur enfant qu'il serait très bien de faire du foot ou du judo, etc. Donc petit à petit va s'élaborer donc cette personnalité faux self. Il est certain que malgré tout, l'inconscient va souffrir, parce que si un enfant n'est pas fait pour faire du football, ou s'il n'est pas fait, ou une petite fille n'est pas faite pour faire de la danse, il va y avoir malgré tout une souffrance très lourde. Donc là aussi, le plaisir est amputé, il est donc en but au surmoi. Donc le corps lui-même va souffrir et le parent va vraiment être perçu comme particulièrement castrateur, réducteur. Donc le parent va être quelque part très dénié. Et comment sortir des conduites d'échec? Eh bien, l'analyse va amener à réhabiliter le parent. Alors, là, il y a peut-être une parenthèse à faire. Il est certain qu'il est difficile de réhabiliter, par exemple, un parent qui a battu son enfant, qui a fait subir des sévices corporels à son enfant. Mais curieusement aussi, un parent ne va pas être mauvais à 100%. C'est impossible. C'est-à-dire que on va pouvoir retrouver dans l'analyse, donc par la méthode des associations libres, par des processus dits de régression, on va pouvoir retrouver plusieurs souvenirs de parents bon objet. Par exemple, peut-être que le père était très violent, mais peut-être que le père achetait une petite voiture à l'enfant. Peut-être que la mère était une mère très sévère, mais peut-être que cette maman, lors d'un anniversaire, faisait systématiquement le dessert désiré par l'enfant, etc., etc. Alors, bien sûr, c'est un chemin qui est long, là je schématise de façon très importante, mais de réhabilitation en réhabilitation, c'est-à-dire de résurgence de souvenirs positifs en souvenirs positifs, effectivement, il y a une réhabilitation du schéma parental qui fait aussi qu'il va y avoir renarcissisation de l'individu. Et petit à petit aussi, finalement, le patient qui se prenait aussi pour un mauvais objet, comme les parents, va se sentir de plus en plus solide et donc de plus en plus sujet. Et étant sujet de lui-même, il va aussi, puisqu'il n'aura plus ce qu'on appelle une angoisse de castration, il va s'autoriser aussi ses désirs, puisqu'il n'aura plus peur finalement de perdre cet amour en se réalisant. Est-ce que vous voulez qu'on creuse dans cette direction? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire et qu'on est vraiment très très limité. D'accord, mais ça c'est beaucoup. Au niveau de l'échec, avez-vous des questions à poser? Alors, comment? Alors, pour soi ou pour les autres? Alors, comment passer l'information? Oui. Oui, alors, voilà, ma réponse va être une réponse professionnelle, c'est-à-dire qu'il faut faire un travail sur soi, sur des formes très résistantes, parce que si vous voulez passer en auto-analyse sans avoir fait d'analyse, c'est déjà très difficile. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a pas que la psychanalyse qui permet d'être en accord avec soi. Et même, ça peut choquer, mais vous avez aussi, par exemple, la spiritualité. Vous avez des formes de psychothérapie qui permettent, malgré tout, une rencontre avec soi. Et donc, sortir de l'échec, c'est quoi essentiellement ? C'est donc ne plus avoir peur de l'autre, de cet autre extérieur qui gère ma vie, même si, encore une fois, c'est un fantasme et qui va me punir en supprimant, finalement, son amour pour moi. Donc, effectivement, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'il faut, malgré tout, même si on veut l'aborder de façon simpliste quant à soi, peut-être essayer tout simplement, quand nos parents nous ont gênés ou s'ils nous gênent encore, cela étant transféré sur l'entourage, essayer tout simplement, pas pour faire de la pensée positive banale, mais essayer aussi d'aller voir un petit peu ce qui se cache de positif dans le miroir que nous oppose l'autre. Parce que l'autre est aussi un miroir, malgré tout, de nos limites. On fait toujours des procès d'intention à l'autre. Ça aussi, c'est un des grands facteurs d'échec, en fait. Ça rejoint aussi, par exemple, la tradition chrétienne, mais c'est pas non plus à dénier quelque part. Hein. 5 minutes, d'accord. Alors, avez-vous des questions à poser ?
Oui, peut-être. Est-ce que, en fait, on doit faire venir l'inconscient au niveau de la conscience pour quelque part le prendre en compte ce niveau d'inconscient, comme son nom l'indique, on n'en a pas conscience. Donc, comment le faire remonter? Est-ce qu'on fait monter la conscience au niveau de l'inconscient ou l'inverse?
Oui, finalement, pour bondir sur le mot miroir, c'est-à-dire la question qui est posée, donc, c'est comment finalement prendre conscience de son inconscient. Alors c'est ce que Freud a appelé les actes manqués. Ça peut être les oublis. Alors qu'entend-on par actes manqués? Ça peut être aussi justement les accidents de voiture. C'est-à-dire là aussi tout ce qui est négatif, tout ce qui peut nous mettre en danger. C'est vrai que souvent on n'y fait pas attention. Donc si par exemple dans une période d'une semaine j'ai 2 ou 3 accrochages de voiture, si régulièrement j'oublie des rendez-vous, eh bien ça veut dire qu'il y a un désaccord entre le ça et le sur moi, et si on laisse faire tout ça, effectivement, on va jusqu'aux somatisations. Alors, en analyse, le terme somatisation, on le prend au sens très très large, c'est-à-dire qu'on peut entendre aussi par somatisation le fait de perdre son emploi, justement. Pourquoi ? Parce que, en règle générale, lorsqu'on travaille, c'est quand même... même si le travail nous intéresse, aussi alimentaire, voyez. Donc c'est toujours cette mise en danger au travers donc de ces actes manqués. Donc l'inconscient se manifeste au travers de toutes ces conduites négatives que l'on attribue au hasard. Là aussi, alors que le hasard n'existe pas, nous sommes vraiment les actants de notre existence.
Si on a des parents qui ne veulent pas lâcher l'emprise sur son enfant, est-ce que la seule solution c'est de prendre la poudre d'escampette?
Alors, la fuite, c'est pas une solution. Oui, parce que les parents, là c'est pareil, qui eux-mêmes sont soumis souvent d'ailleurs à ce qu'on appelle des conduites abandonniques, retiennent leur enfant. Bon, c'est souvent lié d'ailleurs à une angoisse du temps, une angoisse de mort, etc. Mais donc effectivement, ils chapotent l'enfant. Alors, c'est une première possibilité, mais elle n'aboutira à aucun résultat si elle n'est pas accompagnée, là aussi, à tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire aussi, malgré tout, l'autoréhabilitation du schéma parental. On n'a pas le choix. Et curieusement, parce que là aussi, ça peut paraître pas logique, mais dès l'instant où vous allez réhabiliter des parents envahissants, donc ils sont quand même des parents castrateurs, bien curieux, ils vont lâcher. Vous voyez, c'est...
Est-ce que l'hypnose, par exemple, dont François Roustan est le chef de file en France, permet un accès, effectivement, à l'inconscient directement?
Alors, la question qui est soulevée, c'est l'hypnose. Alors, moi, je n'ai aucune formation professionnelle en hypnose. Je vais vous faire une réponse qui n'en est vraiment pas une, c'est-à-dire qu'on sait que Freud, au départ, donc, a une pratique dans le domaine de l'hypnose, par l'intermédiaire de Charcot, Il a lâché au bout de 6 mois, et ça a été relativement rapide, puisqu'il s'est rendu compte effectivement que dès l'instant où le patient est ramené à la conscience, ce refoulement dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qui en fait se manifeste au niveau du préconscient, eh bien, est à nouveau là. Donc le patient ne peut pas prendre conscience donc de ses conduites d'échec et surtout de la raison de ses conduites d'échec. Vous n'avez peut-être pas entendu, non ? Vous n'avez pas compris. C'est-à-dire que donc l'hypnose, pour beaucoup d'analystes qui effectivement s'identifient là à Freud, a ses limites dans la mesure où tant que le patient est sous hypnose, eh bien effectivement, il peut prendre conscience de certaines conduites d'échec liées donc à des complexes, à des manifestations négatives inconscientes, notamment quant à la façon qu'il a d'aborder sa famille, ses parents. Mais dès l'instant où le patient hypnotisé est ramené à la conscience, le processus de refoulement opère à nouveau. Alors, le thérapeute, lui, bien sûr, sait ce qui ne va pas, mais vous savez qu'en analyse, ce n'est pas à nous à dire au patient ce qui ne va pas. C'est le patient qui va nous le livrer, et l'hypnose, a priori, n'a pas ce pouvoir-là. C'est ma position, il y aurait certainement déjà, il faut que j'arrête, je suis en train de me faire bousculer un peu. C'est ma position, mais vous avez des analystes qui vous diront autre chose, mais qui ont une formation que je n'ai pas. Alors, je vais repasser le micro à Philippe. Moi, j'ai envie de conclure en vous disant merci, parce que mes réponses ne sont pas des réponses ni très larges, ni très brillantes, et j'en suis désolée, mais j'ai simplement eu le désir de vous faire partager quelque chose qui, moi, m'a sorti, donc, encore une fois, de mes conduites d'échec. Merci.